From the conference center at Temple...
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 180e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin de Pâques à la quatrième session de la 180e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Tandis que nous fêtons la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, le président Monson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons ceux d'entre vous qui sont dans le centre de conférence et dans les centres de pieux ou qui suivent cette session de le monde entier à la radio, à la télévision ou sur l'Internet. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon sous la direction de Mark Wilberg et de Ryan Murphy avec Clay Christensen et Andrew Unworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « On this day of joy and gladness » et interprétera maintenant « Le Christ est ressuscité ». Ensuite, Kenneth Johnson, des 70, fera la prière d'ouverture. Le chœur chantera ensuite « C'est le Christ ».
Eternal Father in heaven.
Père céleste éternel,
En ce matin de Pâques, nous nous réjouissons dans la réalité de la résurrection de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a accordé le don de la vie éternelle à nous, à toutes les éternités, par son sacrifice expiatoire, qui nous permet, par le repentir, d'obtenir miséricorde et d'obtenir pardon. Nous te prions au cours de cette conférence que les paroles et la musique contribuent à porter l'espoir aux cœurs lourds et la paix aux esprits troublés, afin que les familles soient fortifiées dans la foi. Nous te prions pour ceux qui servent, afin que la société soit plus sûre, ceux qui sont sous les drapeaux, et pour tes missionnaires, tes messagers, qui soient protégés, entourés par le bouclier de la foi. Nous célébrons avec joie le rétablissement de l'Évangile et saluons le rôle remarquable de Joseph Smith, le prophète. Nous sommes si reconnaissants de tes serviteurs, de ton serviteur choisi, le président Monson, que nous soutenons de tout notre cœur. Nous te prions pour tous tes servants rouins et leurs familles, afin qu'ils soient bénis pour la qualité de leur vie et leur dévouement à ta cause. Notre plus grand désir est d'être unis à toi, que nous soyons ainsi un avec, comme toi et ton Fils, vous êtes un. C'est là notre prière, au nom sacré de Jésus-Christ, le Sauveur et Rédempteur du monde. Amen.
Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre Dieter F. Ohrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de Richard J. Scott du Collège des Douze Apôtres, après quoi nous entendrons Donald L. Alstrom de la présidence des 70.
A story is told.
On raconte qu'au cours du bombardement d'une ville pendant la Deuxième Guerre mondiale, une grande statue de Jésus fut gravement endommagée. Quand ils trouvèrent la statue parmi les décombres, les habitants de la ville furent très affectés parce qu'elle était le symbole bien-aimé de leur foi et de la présence de Dieu dans leur vie. Des experts furent capables de réparer la majeure partie de la statue, mais ses mains avaient été tellement endommagées qu'on ne put les réparer. Certaines personnes suggérèrent qu'on engage un sculpteur pour faire de nouvelles mains, mais d'autres voulaient qu'on laisse les choses comme elles étaient pour qu'elles soient un rappel de la tragédie que fut la guerre. Finalement, la statue resta sans main. Cependant, les habitants de la ville ajoutèrent une chose. Au bas de la statue, ils passèrent un écriteau avec ces simples mots. Le Christ n'a d'autres mains que les nôtres ou que les vôtres. Il y a une leçon profonde dans cette histoire. Quand je pense au Sauveur, je me le représente souvent les mains tendues pour réconforter, guérir, bénir et aimer. Il parlait avec les gens, jamais avec condescendance. Il aimait les humbles et les doux, et il a marché parmi eux, les servant et leur offrant espérance et salut. C'est ce qu'il a fait pendant sa vie terrestre. C'est ce qu'il ferait s'il vivait parmi nous aujourd'hui. Et c'est ce que nous devrions faire, nous, ses disciples et membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En ce beau matin de Pâques, nos pensées et notre cœur se portent vers lui, qui est l'espoir d'Israël et la lumière du monde. Si nous imitons son exemple parfait, nos mains peuvent devenir ses mains, nos yeux, ses yeux, et notre cœur, son cœur. La façon dont les membres de l'Église servent les autres me touche profondément. Quand nous entendons parler de vos sacrifices généreux et de votre grande compassion, notre cœur se gonfle de gratitude et de bonheur. Vous êtes une lumière qui brille pour le monde, et vous êtes connus pour votre bonté et votre compassion. Malheureusement, de temps en temps, nous entendons parler de membres de l'Église qui se découragent et cessent de venir à nos réunions de l'Église et d'y participer parce qu'ils pensent ne pas y être à leur place. Lorsque j'étais jeune, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était brisée et en ruine. Beaucoup de gens avaient faim, étaient malades et mourants. Je me souviens bien des envois humanitaires de nourriture et de vêtements qui venaient de l'église de Salt Lake City. Aujourd'hui encore, je me souviens de l'odeur des vêtements et de la douce saveur des pêches en conserve. Peut-être y a-t-il eu alors des personnes qui se sont jointes à l'église pour cette raison. Certains membres considéraient ces nouveaux convertis avec mépris. Ils leur donnaient même un nom insultant, Buxen Mormonen ou Mormon des conserves. Ils n'aimaient pas ces nouveaux membres parce qu'ils croyaient qu'une fois que leurs besoins temporels auraient été satisfaits, ils partiraient et ne reviendraient jamais. Certains sont effectivement partis, mais beaucoup sont restés. Ils sont venus à l'église. ils ont goûté à la douceur de l'Évangile et ont ressenti l'étreinte tendre de frères et sœurs chaleureux. Ils se sont retrouvés à la maison. À présent, 3 ou 4 générations plus tard, beaucoup de familles font remonter leur appartenance à l'Église à ces convertis. J'espère que nous accueillons et aimons tous les enfants de Dieu, y compris ceux qui semblent ou qui peuvent sembler différents ou s'habiller, paraître, parler ou juste faire les choses autrement. Ce n'est pas bien de faire sentir aux autres qu'il leur manque quelque chose. Édifions plutôt les personnes qui nous entourent. Tendons-leur une main accueillante. Accordons à nos frères et sœurs dans l'Église tant de bonté, de compassion et de charité qu'ils puissent finalement sentir qu'ils sont enfin rentrés à la maison. Lorsque nous sommes tentés de juger, pensons au Sauveur qui aime le monde au point de donner sa propre vie afin d'attirer tous les hommes à lui. Et voici, il dit, « Venez à moi, vous les extrémités du monde. » Extrémités de la terre. Tous les hommes ont cette possibilité, les uns comme les autres, et nul ne se la voit interdire. Quand je lis les Écritures, je constate que les personnes qui reçoivent les reproches les plus sévères du Sauveur sont souvent celles qui ont une haute estime d'elles-mêmes en raison de leur richesse, de leur influence ou de leur supposée justice. Une fois, le Sauveur a enseigné la parabole de 2 hommes qui sont allés au temple pour prier. L'un d'eux, pharisien respecté, a dit dans sa prière, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » L'autre homme, un publicain haï, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais s'il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus dit, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » En vérité, nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin de miséricorde. Au dernier jour, quand nous serons appelés à la barre du jugement de Dieu, n'espérons-nous pas que nos nombreuses imperfections seront pardonnées? N'aspirons-nous pas à sentir l'étreinte du Sauveur? Il ne semble que juste et convenable que nous mettions à la portée des autres ce que nous désirons tellement pour nous-mêmes. Je n'essaye pas de dire que nous devons accepter le péché ou fermer les yeux sur le mal. Néanmoins, dans notre vie, dans le monde, dans notre zèle, nous confondons parfois le péché avec le pécheur et nous condamnons trop vite et avec trop peu de compassion. La révélation moderne nous apprend que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons plus jauger la valeur d'une âme, pas plus que nous ne pouvons mesurer l'étendue de l'univers. Toute personne que nous rencontrons est un personnage de marque, un VIP pour notre Père Céleste. Une fois que nous comprenons cela, nous pouvons entrevoir comment nous devons traiter nos semblables. Une femme qui avait traversé des années d'épreuves et de chagrins disait à travers ses larmes, « Je me suis aperçu que je suis comme un vieux billet de $20. » Chiffonné, déchiré, sale, maltraité et pleine de cicatrices. Mais je suis toujours un billet de $20. J'ai une valeur. Bien que je ne paye pas de mine, bien que j'ai été meurtri et usé, je vaux toujours la totalité des $20. Avec cela à l'esprit, offrons notre cœur et tendons nos mains avec compassion aux autres. Car tout le monde traverse des moments difficiles. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à soutenir et à guérir, non à condamner. Il nous est commandé par le Maître de pleurer avec ceux qui pleurent et de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Il est indigne de nous qui sommes chrétiens de penser que les personnes qui souffrent méritent leur souffrance. Le dimanche de Pâques est un bon jour pour nous souvenir que notre Sauveur a volontairement pris sur lui les chagrins, les maladies et les souffrances de chacun de nous, même de ceux qui semblent mériter leur souffrance. Dans le livre des Proverbes, nous lisons « L'ami l'aime en tout temps. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Aimons tous, aimons en tout temps. Et soyons particulièrement là pour nos frères et sœurs qui traversent des temps difficiles. » Une ancienne légende juive parle de deux frères, Abraham et Zimri, qui possédaient un champ et y travaillaient ensemble. Il convint de diviser le travail et la moisson en deux parts égales. Une nuit vers la fin de la moisson, Zimri ne pouvait pas dormir parce qu'il ne lui semblait pas juste qu'Abraham, qui avait une femme et 7 fils à nourrir, reçoive seulement la moitié de la moisson, alors que lui, qui n'avait que lui-même à nourrir, avait tant. Alors, Zimri s'habilla et alla discrètement dans le champ où il prit un tiers de sa récolte pour le mettre sur le tas de son frère. Puis il retourna au lit, certain d'avoir bien agi. Pendant ce temps, Abraham ne pouvait pas dormir non plus. Il pensait à son pauvre frère Zimri qui était seul et n'avait pas de fils pour l'aider dans son travail. Il ne lui semblait pas juste que Zimri, qui travaillait si dur, n'obtienne que la moitié de la moisson. Certainement, cela ne plaisait pas à Dieu. C'est ainsi qu'Abraham alla discrètement dans les champs où il prit un tiers de sa récolte pour le mettre sur le tas de son frère bien-aimé. Le lendemain matin, les deux frères allèrent aux champs et furent étonnés tous les deux de voir que les tas semblaient toujours avoir la même taille. Cette nuit-là, les deux frères sortirent de leur maison pour répéter leurs efforts de la nuit précédente. Mais cette fois-ci, ils se découvrirent mutuellement. Et ce faisant, ils pleurèrent et s'étreignirent. Ni l'un ni l'autre ne purent parler, tellement leur cœur était rempli d'amour et de gratitude. C'est là l'esprit de compassion, que nous aimions les autres comme nous-mêmes, que nous recherchions leur bonheur et que nous fassions pour eux ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. L'amour véritable exige l'action. Nous pouvons parler d'amour toute la journée, nous pouvons écrire des notes ou des poèmes qui le proclament, chanter des chants qui le louent et faire des sermons qui l'encouragent. Mais tant que nous ne manifestons pas cet amour par des actes, nos paroles ne sont qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Le Christ ne s'est pas contenté de parler de l'amour. Il en a fait preuve chaque jour de sa vie. Il ne s'est pas mis à l'écart des autres. Étant au milieu des gens, il a tendu la main à des personnes précises. Il s'est porté au secours des gens qui étaient perdus. Il ne s'est pas contenté de donner un cours sur la façon de tendre la main avec amour pour déléguer ensuite le travail proprement dit à l'autre. Il ne s'est pas contenté d'enseigner, mais nous a montré comment aller au secours des faibles, fortifier les mains languissantes et affermir les genoux qui chancellent. Le Christ sait comment servir parfaitement les autres. Quand le Sauveur tend les mains, les personnes qu'il touche sont édifiées et deviennent plus grandes, plus fortes et meilleures. Si nous sommes ses mains, ne devrions-nous pas faire comme lui? Le Sauveur a révélé les priorités parfaites pour notre vie, notre foyer, notre paroisse et notre collectivité, et notre pays, quand il a dit de l'amour que c'est le grand commandement sur lequel repose toute la loi et les prophètes. Nous pouvons passer nos journées obsédés par les plus petits détails de la vie, de la loi et de longues listes de choses à faire. Mais si nous négligeons les grands commandements, nous sommes à côté de la plaque et nous sommes des nuages sans eau qui dérivent dans le ciel et des arbres sans fruits. Sans cet amour pour Dieu le Père et nos semblables, nous ne sommes son Église que par la forme. Nous n'en avons pas la substance. À quoi bon l'œuvre missionnaire du temple ou de l'entraide et de l'enseignement sans amour? L'amour est ce qui a inspiré notre Père Céleste à créer notre esprit. C'est ce qui a conduit notre Sauveur au jardin de Gethsémané pour se livrer en rançon de nos péchés. L'amour est le grand moteur du plan du salut. C'est la source du bonheur, le printemps toujours renouvelé de la guérison et la précieuse fontaine de l'espoir. Lorsque nous tendons la main aux autres en signe d'amour chrétien, il nous arrive quelque chose de merveilleux. Notre esprit guérit, se raffine et se fortifie. Nous sommes plus heureux, plus paisibles et plus réceptifs aux murmures du Saint-Esprit. De tout mon cœur et de toute mon âme, je remercie notre Père Céleste de son amour pour nous, de la vie et l'exemple de Jésus-Christ, le don qu'il nous a fait, pour son sacrifice sans péché désintéressé. Je me réjouis que le Christ ne soit pas mort, mais qu'il soit sorti du tombeau. Il vit. Il est revenu sur terre pour rétablir son autorité et son évangile parmi les hommes. Il nous a donné l'exemple parfait du genre d'homme et de femme que nous devrions être. En ce dimanche de Pâques et chaque jour, tandis que nous réfléchissons avec vénération et respect à la façon dont notre Sauveur nous prend dans ses bras, nous réconforte et nous guérit, engageons-nous à devenir ses mains, afin que d'autres personnes puissent, à travers nous, sentir son étreinte aimante. Au nom de Jésus-Christ, amen.
It is Easter morning.
Nous sommes le matin de Pâques, le jour saint désigné dans toute la chrétienté pour commémorer la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Sa résurrection a brisé ce qui jusque-là avait été les chaînes inexorables de la mort. Il a ouvert la voie par laquelle chacun des enfants de notre Père Céleste, né sur la terre, aura la possibilité de ressusciter des morts et de vivre à nouveau. Comme notre Père Céleste a dû se réjouir en ce jour sacré, quand son Fils, totalement obéissant et complètement digne, a brisé les chaînes de la mort. Quel objectif éternel, le plan du bonheur de notre Père, aurait eu lui, s'il n'avait pas été rendu vivant par l'expiation infinie et éternelle de son Fils, glorieusement obéissant? Si la mort était la fin de l'existence, et que personne ne ressuscitait, quel but éternel aurait eu la création de la terre, sur laquelle des intelligences dotées d'un corps d'esprit reçoivent un corps de chair? Qu'un instant glorieux ce matin a été pour toutes les personnes qui en comprenaient l'importance. Pâques est cette période sacrée au cours de laquelle le cœur de tous les chrétiens pieux exprime humblement sa reconnaissance envers notre Sauveur bien-aimé. C'est une période qui devrait apporter la paix et la joie à tous les gens qui l'aiment et qui le montrent en obéissant à ses commandements. Pâques nous fait penser à Jésus, à sa vie, à son expiation, à sa résurrection, à son amour. Il est ressuscité des morts, avec la guérison sous ses ailes. Oh, comme nous avons tous besoin de cette guérison que le Rédempteur peut apporter. Ce que vous apportez, c'est un message d'espoir qui se fonde sur les principes contenus dans les enseignements du maître pédagogue Jésus-Christ. Les membres de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, peuvent comprendre plus complètement l'ampleur et la profondeur de la guérison qu'apporte son expiation, parce qu'ils ont la plénitude de sa doctrine. Nous nous rendons compte que ce qu'il a fait volontiers, au prix d'une souffrance et d'un sacrifice immense, ne nous affecte pas seulement dans cette vie, mais aussi pour toute l'éternité. En cette période de Pâques, au moment où vous vous souvenez de la résurrection, du prix qui a été payé et du don qui a été offert par l'expiation, méditez sur ce que les Écritures enseignent au sujet de ces événements sacrés. Votre témoignage personnel de leur réalité sera fortifié. Ce doit être plus que des principes que vous mémorisez. Ils doivent être tissés dans les fibres mêmes de votre être et devenir un rempart puissant contre la marée montante d'abominations qui infecte notre monde. Le prophète Léhi a affirmé une vérité profonde lorsqu'il a déclaré « C'est pourquoi la rédemption vient dans et par l'intermédiaire du Saint-Messie, car il est plein de grâce et de vérité. Voici, il s'offre en sacrifice pour le péché, pour satisfaire aux exigences de la loi, pour tous ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit. Il ne peut être satisfait aux exigences de la loi pour personne d'autre. Pour les orgueilleux, les hautains, c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'expiation. Jésus-Christ vit. Il est notre Sauveur, notre Rédempteur. C'est un être glorieux et ressuscité. Il a la capacité de communiquer l'amour d'une façon si puissante, si pénétrante, qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer valablement. Il a donné sa vie pour briser les liens de la mort. Son expiation a rendu pleinement actif le plan du bonheur de son Père céleste. Jésus permet l'équilibre entre la justice et la miséricorde, à condition que nous obéissions à son évangile. Il est la lumière de tout le genre humain. Il est la source de toute vérité. Il tient toutes ses promesses. Toutes les personnes qui obéissent à ses commandements obtiendront les bénédictions les plus glorieuses qu'on puisse imaginer. Sans l'expiation, le plan du bonheur de notre Père Céleste n'aurait pas pu être pleinement mis en œuvre. L'expiation donne à tous la possibilité de surmonter les conséquences des fautes commises dans la vie. Lorsque nous obéissons à une loi, nous recevons une bénédiction. Lorsque nous enfreignons une loi, il n'y a plus rien dans notre obéissance passée qui satisfasse aux exigences de la justice pour cette loi enfreinte. L'expiation du Sauveur nous permet de nous repentir de toute désobéissance et donc d'éviter les châtiments que la justice aurait imposés. Ma révérence et ma reconnaissance pour l'expiation du Saint Israël, du Prince de la Paix, de notre Rédempteur, s'accroissent continuellement avec mes efforts pour mieux la comprendre. Je suis conscient qu'aucun esprit mortel ne peut correctement concevoir, ni aucune langue humaine, convenablement exprimer la pleine mesure de tout ce que Jésus-Christ a fait par son expiation pour les enfants de notre Père Céleste. Cependant, il est vital que chacun de nous apprenne ce qu'il peut à ce sujet. L'expiation est l'élément essentiel du plan du bonheur de notre Père Céleste. Sans elle, le plan n'aurait pas pu opérer. Votre compréhension de l'expiation et la perception qu'elle vous donne pour votre vie améliorera grandement votre utilisation productive de toute la connaissance, de toute expérience et de toutes les compétences que vous acquérez dans la vie ici-bas. Je crois qu'il est instructif d'essayer d'imaginer ce que l'expiation a requis de la part du Père et de son Fils obéissant. Le Sauveur a fait face aux trois difficultés suivantes. premièrement un énorme sentiment de responsabilité, car il était conscient que si l'expiation n'était pas accomplie parfaitement, pas un seul des enfants de son père ne pourrait retourner à lui. Il serait banni de sa présence à jamais, puisqu'il n'y aurait aucun moyen de se repentir des lois enfreintes et que rien d'impur ne peut exister en la présence de Dieu. Le plan de son père aurait échoué et chaque enfant d'esprit aurait été sous le contrôle et le tourment éternel de Satan. Deuxièmement, dans son esprit et dans son cœur absolument pur, il a fallu qu'il ressente personnellement les conséquences de tout ce que l'humanité rencontrerait jamais, même les péchés les plus dépravés et les plus ignobles. Troisièmement, il a fallu qu'il supporte l'attaque brutale des hordes de Satan, alors que ses ressources physiques et émotionnelles étaient presque épuisées. Puis pour des raisons que nous ne connaissons pas complètement, alors que le Sauveur était à la limite de ses capacités, au moment où il avait le plus besoin de secours, son père lui a permis d'endosser la lourde responsabilité avec ses propres forces et ses propres capacités. J'essaie d'imaginer le moment intensément poignant que cela a dû être pour notre Père Céleste quand un Sauveur s'est écrié sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je ne crois pas que notre Père Céleste ait abandonné son Fils sur la croix. Ce que je crois, c'est que ce cri était lancé lorsque le Fils a senti que le soutien que son Père lui avait toujours accordé était retiré. Son Père savait que le Sauveur devait accomplir l'expiation totalement et complètement seul, sans soutien extérieur. Le Père n'a pas abandonné son Fils. Il a permis à son Fils parfait de gagner les fruits éternels de l'expiation. Aucun de nous ne pourra jamais, dans la condition mortelle, apprécier à leur juste valeur toutes les conséquences bénéfiques de l'expiation. Chacun de nous doit impérativement approfondir sa compréhension de l'importance de l'expiation de Jésus-Christ, afin qu'elle devienne un fondement inébranlable sur lequel construire sa vie. Alors que le monde devient de plus en plus dépourvu de principes fondamentaux et que l'honneur, la vertu et la pureté sont de plus en plus mis de côté au profit de la satisfaction des appétits, notre compréhension de l'expiation de Jésus-Christ, notre foi en elle, nous apporte la force et la capacité nécessaires pour réussir notre vie. Elles apportent également la confiance dans les périodes d'épreuves et la paix dans les moments d'agitation. Je vous recommande fortement de vous fixer un plan d'étude personnel pour mieux comprendre et apprécier les conséquences incomparables, éternelles et infinies de la réalisation parfaite de la paix que Jésus-Christ a reçue de Dieu, d'être notre Sauveur et notre Rédempteur. Une méditation personnelle approfondie sur les Écritures, accompagnée de prières profondes et sincères, fortifiera votre compréhension de son expiation inestimable et votre gratitude pour elle. Un autre moyen efficace d'apprendre de Jésus-Christ est d'aller régulièrement au temple. Puissions-nous tous renouveler notre détermination d'enseigner des vrais principes dans le cadre sacré de notre foyer. Ce faisant, nous assurerons aux esprits qui nous sont confiés la meilleure chance de bonheur. Utilisez l'Église comme un outil juste pour fortifier le foyer. Mais soyez conscients que les parents ont la responsabilité et les droits fondamentaux d'être guidés par le Seigneur dans la façon dont ils élèvent ces enfants d'esprit confiés à leurs soins. L'enseignement de la vérité au foyer est fondamental et vital. L'Église est importante, mais c'est au foyer que les parents aident les enfants à comprendre la vérité et leur apportent la direction nécessaire. On dit à juste titre que les appels les plus importants dans le temps et l'éternité sont ceux de père et de mère. nous serons finalement relevés de toutes les autres responsabilités que nous aurons reçues, mais pas de notre rôle de père ou de mère. Lorsque vous méditerez, et pas seulement lirez, mais réfléchirez et méditerez sur des passages scripturaires, le pouvoir du Saint-Esprit distillera des vérités dans votre esprit et dans votre cœur, ce qui constituera un fondement ferme à l'époque d'incertitude où nous vivons. Parents, préparez vos enfants pour les difficultés qu'ils rencontreront. Enseignez-leur la vérité. Incitez-les à vivre en accord avec elle. Et tout se passera bien pour eux, quelle que soit l'intensité de l'agitation du monde. En cette fête de Pâques, prenez la résolution de faire du Seigneur Jésus-Christ le centre vivant de votre foyer. Assurez-vous que toutes les décisions que vous prenez, qu'elles soient de nature spirituelle ou physique, sont guidées par la question « Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que je fasse ?» Lorsque le Sauveur est au centre de votre foyer, celui-ci est rempli de paix et de sérénité. Il y règne un esprit d'assurance calme que ressentent aussi bien les enfants que les adultes. La meilleure façon de produire un changement bénéfique permanent est de prendre Jésus-Christ pour modèle et ses enseignements pour guide dans votre vie. Si vous avez désobéi à ses commandements et vous sentez indigne, prenez conscience que c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Par son expiation, il a donné pour toujours la possibilité de triompher de ses erreurs, de se repentir des choix mal avisés et de vaincre les effets négatifs d'une vie contraire à ses enseignements. Le Sauveur aime chacun de nous et permettra que tous nos besoins soient satisfaits si, par l'obéissance, nous nous qualifions pour recevoir toutes les bénédictions qu'il veut que nous ayons sur cette terre. Je l'aime et je l'adore en ma qualité de serviteur autorisé. Je témoigne solennellement de tout le pouvoir de mon être qu'il vit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a bien des années, j'ai été témoin d'un grand chagrin qui s'est transformé en tragédie. Un jeune couple se préparait à la naissance de son premier enfant. Il vivait dans l'attente et l'enthousiasme de cette expérience prodigieuse. Au cours de l'accouchement, il y eut des complications et le bébé mourut. Le chagrin des conjoints se transforma en douleur, leur douleur en colère. Celle-ci se transforma en reproches qui eux-mêmes évoluèrent en désir de vengeance envers le médecin qu'ils tenaient pour responsable de tout. Les parents et d'autres membres de la famille s'en mêlèrent et cherchèrent ensemble à ruiner sa réputation et sa carrière. Des semaines et puis des mois d'acrimonie consumèrent les membres de cette famille et leur rancœur se retourna aussi contre le Seigneur. Comment pouvaient-ils permettre que cette horrible chose se produise? Ils rejetèrent les efforts répétés des dirigeants et des membres de l'Église pour les réconforter spirituellement et émotionnellement, et peu à peu, ils se dissocièrent de l'Église. 4 générations de cette famille ont maintenant été affectées par cet événement. Là où jadis il y avait eu foi et dévouement vers le Seigneur et son Église, depuis des décennies, plus aucun membre de cette famille n'a eu d'activité spirituelle. Dans les situations les plus difficiles de la vie, il n'y a souvent qu'une seule source de paix. Le prince de la paix, Jésus-Christ, accorde sa grâce accompagnée de cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il promet aussi, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Mes grands-parents paternels avaient 2 enfants, un fils, mon père, et une fille. Après être allé en mission et avoir fait son service militaire à Hawaï, mon père retournait dans les îles en 1946 pour s'y établir professionnellement et élever ses enfants. Ses parents vivaient à Salt Lake City, ainsi que sa sœur. Elle s'est mariée en 1946 et, 4 ans plus tard, elle attendait un enfant. C'est une expérience très particulière quand des parents attendent que leur fille, dans ce cas-ci leur seule fille, donne naissance à son premier enfant. Personne ne savait qu'elle attendait des jumeaux. Malheureusement, elle-même et les jumeaux sont morts à la naissance des enfants. Mes grands-parents ont eu le cœur brisé. Cependant, leur chagrin les a immédiatement amenés à se tourner vers le Seigneur et son sacrifice expiatoire, sans s'éterniser à se demander pourquoi cela avait pu arriver et qui en était responsable. Ils ont cherché la paix qui surpasse toute intelligence et se sont efforcés de mener une vie juste. Mes grands-parents n'ont jamais été riches, ils n'ont jamais fait partie de l'élite sociale, ils n'ont jamais eu de poste élevé dans l'Église. Ils étaient simplement des saints des derniers jours dévoués. Après avoir pris leur retraite en 1956, ils se sont installés à Hawaï pour vivre avec leur unique enfant. Au cours des décennies suivantes, ils ont consacré leur temps à aimer leur famille, œuvrer dans l'Église. Pendant plus de 20 ans, ils ont particulièrement chéri leur appel de servant du Temple, et par-dessus tout, ils ont été heureux d'être ensemble. Ils n'ont jamais aimé être séparés, et ils ont même parlé de la possibilité, si l'un d'entre eux mourrait en premier, qu'ils puissent trouver le moyen le permettant d'être bientôt réunis. Peu de temps avant leur 90e anniversaire, et après 65 ans de mariage, ils sont morts à quelques heures d'intervalle de cause naturelle. Étant leur évêque, j'ai dirigé leurs obsèques. Cela fait maintenant 4 générations que la fidélité de grand-pa Art et de grand-maman Lou, particulièrement quand ils affrontaient des difficultés, influence leurs descendants. D'une manière directe et profonde, cela a influencé leur fils, mon père, et ma mère, quand la propre fille de mes enfants, la plus jeune de leurs enfants, est décédée suite à des complications à son accouchement. À 34 ans, elle est décédée 10 jours après la naissance de son enfant, laissant 4 enfants âgés de 10 jours à 8 ans. Suivant l'exemple que leurs parents leur avaient montré la génération précédente, mes parents se sont tournés sans hésiter vers le Seigneur pour qu'il les console. Dans le monde entier et parmi les membres de l'Église, il y a de grandes joies et de grandes souffrances. Les unes et les autres font partie du plan. Sans les unes, nous ne pouvons pas connaître les autres. Les hommes sont pour l'avoir la joie et, car il doit nécessairement y avoir une opposition à toute chose, ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Quand il a décrit ce qu'il a ressenti lorsqu'il s'est tourné vers le Seigneur, Alma le jeune a dit, « Mon âme était remplie d'une joie aussi extrême que l'avait été ma souffrance. » Certaines personnes sont vaincues par de graves problèmes, d'autres laissent de petites choses prendre de grandes proportions. Simon Ryder était un dirigeant campbellite qui entendit parler de l'Église et qui rencontra Joseph Smith. Cette expérience le toucha et il devint membre de l'Église en juin 1831. Immédiatement après, il fut ordonné ancien et appelé en mission. Cependant, dans sa lettre d'appel en mission de la première présidence et sur le document officiel lui donnant l'autorité de prêcher, son nom fut mal autographié. À une lettre près, son nom de famille était écrit R-I-D-E-R et non pas R-Y-D-E-R, comme cela aurait dû l'être. Cela l'amena à remettre son appel en question, ainsi que les personnes dont il émanait. Il décida de ne pas aller en mission et apostasia, ce qui ne tarda pas à déboucher sous de la haine et une opposition intense envers Joseph et l'Église. En mars 1832, quand Joseph Smith et Ezra Rigdon furent arrachés en pleine nuit à la maison de John Johnson par des émeutiers en colère et qu'ils furent enduits de goudron et de plumes, une voix cria « Simons, Simons, où est le seau de goudron ?» En moins de 10 mois, Simons Ryder était passé de converti zélé à meneur d'émeutiers. Son déclin spirituel avait commencé parce qu'il s'était offensé que son nom ait été mal orthographié à une lettre près. Quelle que soit la gravité de l'affaire, la façon dont nous y réagissons peut réorienter le cours de notre vie. Joseph Smith, le prophète, a montré comment affronter l'opposition et les drames personnels. Alors qu'il se trouvait dans le cadre inhumain de la prison de Liberty, cette directive divine, qui entre autres était une description de sa vie jusqu'alors, ainsi qu'un avertissement, lui fut révélée. Quand les insensés te tourneront en dérision, si tu es appelé à traverser des tribulations, si tu es en péril parmi de faux frères, si tu es victime de toutes sortes de fausses accusations, si tes ennemis s'abattent sur toi, si tu dois être jeté dans la fosse ou entre les mains d'assassins, et que tous les éléments s'unissent pour te barrer la route, et par-dessus tout, si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir, sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Suivent alors ces paroles profondes. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? Suivent alors une directive claire et de grandes promesses. Maintiens-toi donc sur ta route, et la prêtrise restera avec toi, car leurs limites sont fixées. C'est pourquoi ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Au cours des années suivantes, Joseph Smith a continué à supporter avec justice une vie remplie d'adversité. Il nous propose cette perspective pleine de foi. Pour ce qui est des périls que je suis appelé à traverser, il ne semble être pour moi qu'une petite chose. Je suis habitué à nager en eau profonde. Je me glorifie des tribulations, car Dieu m'a délivré de toutes et m'en délivrera dorénavant. Joseph fondait sa confiance à surmonter l'opposition constante sur sa capacité de se tourner continuellement vers le Seigneur. Si vous estimez que quelqu'un, un membre de votre famille, un ami, un autre membre de l'Église, un dirigeant de l'Église, un associé en affaires, ou quelque chose, la mort d'un être cher, des problèmes de santé, un revers financier, des sévices, une dépendance, vous a fait du tort, traitez cela directement et avec toute la force que vous avez. Maintiens-toi sur ta route. Abandonner n'est pas une solution. Et sans délai, tournez-vous vers le Seigneur. Exercez toute votre foi en lui. Laissez-le vous aider à porter votre fardeau. Permettez à sa grâce d'alléger votre charge. Il nous est promis que nous ne souffrirons aucune sorte d'affliction sans qu'elle ne soit engloutie dans la joie du Christ. Ne laissez jamais les circonstances terrestres vous handicaper spirituellement. Dans son action la plus exemplaire, l'expiation a requis de Jésus qu'il descende au-dessous de tout et qu'il subisse les souffrances de tous les hommes. Ainsi, nous comprenons que le sacrifice expiatoire a un objectif plus large que de fournir un moyen de vaincre le péché. Cette réalisation, la plus grande de toutes les réalisations terrestres, donne au Sauveur le pouvoir d'accomplir cette promesse. Si vous vous tournez vers le Seigneur d'un cœur pleinement résolu et placez votre confiance en lui et le servez en toute diligence d'esprit, si vous faites cela, il vous délivrera de la servitude. En commémorant ce matin de Pâques, tournons-nous vers le Seigneur, notre étoile brillante du matin. Je témoigne qu'il éclairera notre chemin, notre vérité et notre vie à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter Hosanna au grand roi. Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Cheryl L. Seeland, qui a été relevée hier de son appel de présidente générale de la primaire. Après son discours, Quentin L. Cook, du Collège des Douze Apôtres, nous adressera la parole. Le chœur chantera ensuite « Quand Jésus reviendra ».
The
This is the 180th.
Vous assistez à la 180e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Il y a plusieurs années, j'enseignais à un groupe de responsables de la garderie comment donner une courte leçon sur l'Évangile à de très jeunes enfants. L'une d'elles tenait son jeune fils sur les genoux. J'avais une image du Sauveur à la main, et pour montrer comment s'adresser aux enfants, j'ai commencé à parler de Jésus. Le petit garçon s'est laissé glisser des genoux de sa mère et est venu vers moi d'un pas hésitant, à regarder intensément l'image et à toucher le visage. À ce moment du dialogue, j'ai posé la question « Qui est-ce ?» En souriant, l'enfant a répondu « Jésus ». Il n'était même pas assez grand pour dire son propre nom, mais il avait reconnu l'image et connaissait le nom du Sauveur. Devant cette réponse attendrissante, je me suis souvenu des paroles du Sauveur. Cherchez toujours la face du Seigneur, afin qu'avec patience, vous puissiez posséder votre âme, et vous aurez la vie éternelle. Que signifie chercher la face du Sauveur? Assurément, cela veut dire plus que reconnaître sur une image. L'invitation du Christ à le chercher est une invitation à savoir qui il est, ce qu'il a accompli pour nous, et ce qu'il nous demande de faire. Nous ne pouvons pas aller au Christ et voir sa face que si nous nous rapprochons de lui par la foi et les actes. On y parvient par toute une vie d'efforts. Alors, comment le rechercher dans cette vie, de manière à pouvoir voir sa face dans l'au-delà? Dans 3 Néphis, nous avons le récit d'un peuple qui a réellement vu la face du Sauveur dans cette vie. Et bien que nous ne puissions peut-être pas le voir maintenant, nous pouvons tirer des enseignements de cette vie, de cette expérience. Après sa mort, le Sauveur apparut à ce peuple, l'instruisit et le bénit. Puis, il arriva qu'il commanda qu'on lui amenât les petits-enfants. Nous avons la responsabilité sacrée, en qualité de parents et de dirigeants de cette génération montante d'enfants, de les conduire au Sauveur, afin qu'ils puissent voir son visage et celui de notre Père Céleste. Ce faisant, nous allons, nous aussi, à lui. Je repose la question. Comment pouvons-nous faire cela, particulièrement dans un monde rempli d'influences perturbatrices? Dans 3 Néphis, les parents aimaient le Seigneur. Ils étaient croyants. Ils avaient foi dans les miracles que Jésus avait accomplis. Ils aimaient leurs enfants. Ils les rassemblèrent pour écouter les paroles du Seigneur et obéir à son commandement de les amener à lui. Après que les enfants lui eurent été amenés, le Christ demanda aux parents de s'agenouiller. Puis il fit pour eux ce qu'il a fait pour nous tous. Il pria le Père pour eux, et il est précisé que les choses étaient si grandes et merveilleuses qu'il n'y avait pas de mots pour les décrire. En allant au Sauveur, en acceptant son expiation, ses parents ont reçu la force de faire tout ce qui est nécessaire pour lui amener leurs enfants. L'une des autres choses que le Christ a demandé à ses enfants est rapportée dans 3 Néphis 22:13. « Tous tes fils seront disciples du Seigneur, et grande sera la prospérité de tes fils. » Ainsi, après l'expérience qu'ils eurent avec le Sauveur, ses parents néphites instruisirent leurs enfants à son sujet. Ils leur apprirent à l'aimer. Ils leur enseignèrent son évangile. Ils leur apprirent à le vivre. Ils les instruisirent si bien qu'il y eut la justice et la paix dans le pays pendant 200 ans. Je vais vous demander de regarder autour de vous les personnes qui vous sont chères. C'est ce qui a le plus d'importance, notre famille. Je suis certaine que vous désirez, plus que tout, que votre famille soit éternellement avec vous. Le récit de 3 Néphis peut nous aider à amener nos enfants au Christ, parce qu'il nous donne un modèle à suivre. Premièrement, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, et nous devons aimer nos enfants. Deuxièmement, nous devons devenir des exemples dignes pour eux, en recherchant continuellement le Seigneur et en nous efforçant de vivre l'Évangile. Troisièmement, nous devons enseigner à nos enfants l'Évangile et la façon d'en appliquer les préceptes. Le fait de suivre ce modèle pour amener nos enfants au Sauveur est un processus. Regardons de nouveau le modèle. Premièrement, nous devons apprendre à aimer le Seigneur et notre famille. Cela nécessite du temps, de l'expérience, de la foi et impose un service altruiste. Alors, remplis de l'amour du Seigneur, nous pouvons aimer. Il est possible qu'il pleure à cause de ce que nous faisons, mais il nous aime et il est toujours là pour nous aider. C'est de cette façon que nous devons apprendre à aimer nos enfants. Deuxièmement, nous devons devenir des exemples de valeur. C'est également un processus. Si nous voulons que nos enfants aillent au Christ, afin qu'ils voient sa face, il est important que nous essayions de la voir, nous aussi. Nous devons connaître le chemin de manière à le leur montrer. Nous devons mettre notre vie en ordre afin que les enfants puissent nous prendre pour exemple et nous suivre. Nous pourrions nous demander, qu'est-ce que mes enfants voient quand ils regardent mon visage? Est-ce qu'ils y voient l'image du Sauveur grâce à la façon dont je mène ma vie? Souvenez-vous qu'aucun d'entre nous ne sera l'exemple parfait pour ses enfants, mais nous pouvons tous devenir des parents et des dirigeants dignes. Nos efforts pour être dignes sont en eux-mêmes un exemple. Il se peut que nous ayons parfois l'impression d'échouer, mais nous pouvons continuer d'essayer. Avec le Seigneur et à travers lui, nous pouvons avoir la force d'être ce que nous devons être. Nous pouvons faire ce que nous devons faire. Troisièmement, il y a le processus d'amener nos enfants au Sauveur en leur enseignant les vérités de l'Évangile à partir des Écritures et des paroles des prophètes, et en les aidant à ressentir et à reconnaître l'Esprit. Même les très jeunes enfants peuvent comprendre et accepter les choses de nature éternelle. Ils aiment les Écritures, et ils aiment le prophète. Intuitivement, ils veulent être bons. C'est à nous de maintenir le canal ouvert avec les cieux. C'est à nous de les protéger des influences qui font perdre le contact avec l'esprit. Nous pouvons trouver de l'aide et des directives dans les Écritures. Nous pouvons alors apprendre à nos enfants comment y trouver leur propre réponse. Nous pouvons leur enseigner des principes corrects et les aider à les mettre en pratique dans leur vie. Nous pouvons les diriger vers l'esprit afin qu'ils reçoivent leur propre témoignage des vérités qu'ils apprennent. Nous pouvons les aider à trouver de la joie à vivre l'Évangile. Cela posera dans leur vie un fondement ferme de foi et d'obéissance qui leur donnera de la force. Cela étant, aucune de ces choses ne vient facilement. Le récit Néphite raconte que ces familles eurent 200 ans de paix, mais cela demanda certainement beaucoup d'efforts. Cela demande beaucoup de travail, de patience et de foi, mais il n'est rien qui soit plus important ni plus enrichissant. Et le Seigneur nous aidera, car il aime ses enfants plus encore que nous les aimons. Il les aime et il les bénira. Vous vous souviendrez qu'il bénit les enfants néphites un à un et qu'il pria pour eux. Puis, il parla à la multitude et lui dit, « Voyez vos petits-enfants. » Et comme ils regardaient, ils jetèrent les regards vers le ciel et ils virent les cieux ouverts et ils virent des anges descendre du ciel comme au milieu d'un feu. Et ils descendirent et entourèrent ces petits-enfants. Et ils étaient environnés de feu, et les anges les servirent. Comment nos enfants peuvent-ils connaître aujourd'hui des bénédictions telles que celles-ci? Emerson Ballard a dit, « De toute évidence, ceux d'entre nous à qui de précieux enfants ont été confiés ont reçu une intendance sacrée et noble, car nous sommes ceux que Dieu a désignés pour entourer les enfants d'aujourd'hui d'amour, du feu de la foi et de la connaissance de ce qu'ils sont. » Mes frères et sœurs, nous sommes les anges que notre Père Céleste a envoyés de nos jours pour apporter des bénédictions aux enfants, et nous pouvons les aider à voir un jour la face du Sauveur en enseignant les principes de l'Évangile et en remplissant notre foyer de la joie qui accompagne leur mise en pratique. Ensemble, nous pouvons parvenir à le connaître. Nous pouvons sentir son amour et ses bénédictions, et grâce à lui, nous pouvons retourner en la présence du Père. C'est ce que nous faisons lorsque nous sommes disposés à être obéissants, fidèles et diligents à suivre ses enseignements. En vérité, ainsi dit le Seigneur, il arrivera que toute âme qui délaisse ses péchés vient à moi, invoque mon nom, obéit à ma voix et garde mes commandements, verra ma face et saura que je suis. Mes frères et sœurs, je sais que Dieu vit, que Jésus-Christ est son Fils, notre Sauveur et Rédempteur. Il nous a invités à aller à lui et nous commande d'amener nos enfants afin qu'ensemble, nous puissions voir sa face et vivre éternellement avec lui et avec notre Père Céleste. Je prie pour que nous nous efforcions tous de recevoir cette grande bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Je remercie Sœur Lante et ses conseillères de tout ce qu'elles ont fait, le service merveilleux qu'elles ont rendu. C'est une grande responsabilité de parler le dimanche de Pâques au sein des derniers jours du monde entier qui aime notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous célébrons ce matin sa victoire sur la mort. Nous chérissons notre compréhension, le sacrifice expiatoire volontaire du Sauveur en notre faveur. En acceptant la volonté de son Père, il a remporté une victoire divine sur la mort. Et c'est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Je suis reconnaissant de cette occasion de parler de la manière de suivre le Sauveur. Les deux derniers jours du ministère terrestre du Sauveur, avant sa crucifixion, sont très importants et par certains côtés dépassent notre compréhension. Une grande partie des conditions nécessaires à notre destinée éternelle a été remplie le jeudi puis le vendredi, jour de la crucifixion du Christ. La Sainte Cène, le repas de la Pâque, en mémoire de la libération d'Israël de l'esclavage, a commencé le jeudi soir. Des ordonnances et des points de doctrine de grande importance ont été instaurés au moment de ce repas. Je n'en mentionnerai que trois. Premièrement, le Sauveur a instauré l'ordonnance de la Sainte Cène. Il a pris du pain, l'a rompu, l'a béni, et l'a distribué à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il a ainsi institué la Sainte Cène. Deuxièmement, il a essentiellement mis l'accent sur des points de doctrine enseignant l'amour comme principe prééminent. Il a enseigné « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Troisièmement, grâce à l'intercession ou à la demande du Christ, le Saint-Esprit fut promis aux apôtres comme autre consolateur. Le Sauveur a ensuite accompli l'expiation. Il a pris sur lui le fardeau des péchés de l'humanité et les horreurs que Satan pouvait infliger. Il a ainsi subi les procès concoctés frauduleusement et les événements terribles et tragiques qui ont mené à sa crucifixion. Tout cela a mené au point culminant de la résurrection triomphante du Christ le dimanche de Pâques. Le Christ était acquitté de sa mission sacrée de sauveur et de rédempteur. Nous allons ressusciter. Notre esprit et nos corps seront réunis. Selon notre dignité et par sa grâce, nous pourrons avoir la glorieuse possibilité de retourner en présence de Dieu. Joseph Smith, le prophète, parlant de ces événements de Pâques, a dit « Les principes fondamentaux de notre religion sont témoignages des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ, qu'il est mort, a été enterré, est ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. Et toutes les autres choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des annexes. » Bien que nous nous réjouissions de l'importance cruciale des événements qu'ont été Gethsémané et Calvaire, c'est sur le Seigneur ressuscité que nous nous sommes toujours concentrés. Frederick Farrar, théologien et croyant anglais, a témoigné que la toute première génération de croyants de l'Église chrétienne primitive célébrait le Sauveur en l'appelant le Christ ressuscité, éternel, glorifié. Elle le voyait non pas sur la croix, mais sur son trône. Le président Hinckley a enseigné que notre message au monde est qu'il vit. Le symbole du Christ pour nous, saint des derniers jours, il réside dans l'expression éloquente de notre foi et dans la manière dont nous vivons son évangile. En réfléchissant à ce que signifie être chrétien aujourd'hui, pensez à ce qu'une vie de disciple requiert de nous. Je propose que nous méditions sur ce que le Sauveur a fait durant ces deux derniers jours de sa vie terrestre et que nous suivions à notre niveau son exemple. Premièrement, réfléchissez à l'institution de la Sainte Cène par le Sauveur. Il savait ce qui allait lui arriver. Sa mission expiatoire sacrée, commencée lors de la guerre dans les cieux, dans la préexistence, allait s'accomplir ce soir-là et le lendemain. Et pourtant, alors que les procès intentés par ses adversaires étaient tout proches, il n'y a pas la moindre indication qui préparait une défense contre les fausses accusations. Au lieu de cela, le Sauveur présenta à ses disciples l'ordonnance sacrée de la Sainte Cène. En méditant sur ce moment solennel, je suis profondément touché. La réunion de Sainte Cène est la plus sacrée et la plus sainte de toutes les réunions d'Église. Après sa résurrection, le Sauveur a institué la Sainte Cène parmi les néphites. Si nous voulons être ses disciples et être des membres engagés de son Église, nous devons nous souvenir de la Sainte Cène et la révérer. Elle permet à chacun de nous d'exprimer, le cœur brisé et l'esprit contrit, son désir de suivre le Sauveur, de se repentir et de devenir un saint par l'expiation du Christ. La Sainte Cène nous permet aussi, en renouvelant l'alliance de notre baptême, de témoigner à Dieu que nous souviendrons de son Fils et que nous respecterons ses commandements. Cela augmente notre amour et notre reconnaissance pour le Père et le Fils. Le Sauveur a aussi mis l'accent sur l'amour et sur l'unité, a déclaré que nous serons reconnus comme ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Compte tenu du fait qu'il était sur le point d'accomplir une expiation aux conséquences éternelles, ce commandement mérite réellement que nous l'appliquions. Nous manifestons notre amour pour Dieu quand nous respectons ses commandements et servons ses enfants. Nous ne comprenons pas pleinement l'expiation, mais nous pouvons passer notre vie à essayer d'avoir plus d'amour et de gentillesse, quelle que soit l'adversité que nous rencontrons. La mission que le Sauveur a donnée à ses disciples de s'aimer les uns les autres et la manière remarquable et puissante dont il a enseigné ce principe de la Sainte Cène font de ce moment l'un des plus poignants, les plus beaux des derniers jours de sa vie de la condition mortelle. Il n'était pas en train d'enseigner un simple cours de bonne conduite. Le Fils de Dieu, en personne, était en train de supplier ses apôtres et tous les disciples qui le suivraient de se souvenir du plus important de ses enseignements et de le suivre. La manière dont nous agissons les uns envers les autres est une indication de notre désir de suivre Jésus-Christ. En écoutant les messages de cette conférence, nous allons être touchés et nous allons prendre la résolution et l'engagement de faire mieux. Mais lundi matin, nous allons retourner au travail, à l'école, dans notre quartier, et dans un monde qui est dans de nombreux cas dans la confusion. Beaucoup de gens dans ce monde ont peur les uns des autres et ont de mauvais sentiments envers les autres. Tout en comprenant ces sentiments, nous devons avoir des paroles courtoises et faire preuve de respect pour chacun. Cela est particulièrement vrai lorsque nous ne sommes pas d'accord. Le Seigneur nous enseigne à aimer même nos ennemis. La grande majorité de nos membres suivent cette recommandation, mais il y en a qui pensent qu'il est plus important d'exprimer leur colère ou leurs opinions profondes que de se conduire comme Jésus-Christ et de faire ce qu'il a enseigné. Je nous invite chacun, personnellement, à prendre conscience que la manière dont nous manifestons notre désaccord est une mesure réelle de notre personnalité et de notre fidélité au Sauveur. On peut ne pas être d'accord, mais on ne doit pas être désagréable. La violence et le vandalisme ne sont pas des manières d'exprimer nos désaccords. Si nous faisons preuve d'amour et de respect, même dans les moments difficiles, nous devenons davantage semblables au Christ. La promesse du Saint-Esprit que le Sauveur a faite aux douze est d'une importance extrême en ce qu'elle définit le rôle prééminent du Saint-Esprit, troisième membre de la divinité. Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit, le consolateur qui témoigne du Père et du Fils, révèle la vérité de toutes choses et sanctifie les gens qui se sont repentis et se sont fait baptiser. On l'appelle le Saint-Esprit de promesse. Et en tant que tel, il confirme que nos actes justes, nos ordonnances et nos alliances sont acceptables par Dieu. Les personnes qui sont scellées par le Saint-Esprit de promesse reçoivent tout ce que le Père possède. Nous vivons dans un monde bruyant, querelleur, où il est possible de regarder ou d'écouter des informations, de la musique, ou même des choses sans aucun sens, à pratiquement toute heure du jour. Si nous voulons avoir l'inspiration du Saint-Esprit, nous devons trouver le temps de ralentir, de méditer, de prier, et d'être dignes de recevoir son inspiration et d'agir en conséquence. Nous éviterons de graves erreurs si nous écoutons ses avertissements. Nous avons le droit, en tant que membres, de recevoir de lui la lumière et la connaissance, même jusqu'au jour parfait. Les épreuves de l'expiation subies par le Sauveur à Gethsémané sur la croix sont un grand exemple pour nous. Il a subi des afflictions mentales, physiques et spirituelles qui sont au-delà de notre compréhension. Dans le jardin, il adressait cette prière à son Père. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Pour nous, ses disciples, il y aura des moments où nous serons éprouvés, persécutés et raillés injustement, où nous essuierons des tempêtes temporelles et spirituelles d'une ampleur qui nous semblera insoutenable, où nous prierons pour que des coupes amères s'éloignent de nous. Personne n'est exempté des tempêtes de la vie. Nous préparons pour la seconde venue du Sauveur. Les Écritures disent clairement que personne ne sait quand elle surviendra. Elles disent aussi que dans les derniers jours, parmi les coupes amères que nous connaîtrons, il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des vagues de la mer se soulevant au-delà de leurs limites. Il y a eu récemment des tremblements de terre et des raz-de-marée dévastateurs en divers lieux, dont le Chili, Haïti et les îles du Pacifique. Il y a quelques semaines, David Burton, évêque président, Tad Callister et moi avons pu rencontrer les saints qui ont perdu des membres de leur famille suite au raz-de-marée qui a frappé la côte est de Samoa en septembre dernier. La chapelle était pleine et ce fut une réunion émouvante. Nous avons pu assurer à ces chers membres que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, ils retrouveront les personnes aimées qu'ils ont perdues. Le président de Pew, Sonny Purcell, conduisait sa voiture quand il a vu au loin l'énorme vague déferler au large. En klaxonnant, il arrêtait les enfants qui allaient à l'école et leur a dit de courir le plus vite possible, chercher refuge sur les hauteurs. Les enfants l'ont fait. Il s'est précipité chez lui, a mis sa fille de 4 ans dans la voiture, puis il a essayé de trouver sa mère. Mais avant qu'il puisse parvenir jusqu'à elle, le mur d'eau a soulevé sa voiture et l'a projeté à plus de 100 mètres de là, dans un arbre. Il a vite mis sa fille en sécurité sur le toit de la voiture. Puis il a nagé vers sa mère, qui était accrochée à une branche d'un autre arbre, près de leur maison. Au prix de grands efforts, il a réussi à ramener sa mère à la nage jusqu'à la voiture et en lieu sûr. Beaucoup de gens n'ont pas eu autant de chance. Ils n'ont pas eu le temps de se réfugier en hauteur. Beaucoup ont perdu la vie, particulièrement des enfants, des personnes âgées. Nous avons dit aux familles samoanes que les membres du monde entier ont exprimé leur amour et leur sollicitude, ont prié pour elles, ont fait des offrandes pour le fonds de jeûne et d'aide humanitaire, pour les membres et leurs voisins. Il en est de même pour les membres et leurs voisins du Chili et d'Haïti. Nous agissons ainsi parce que nous suivons Jésus-Christ. Lorsque nous avons rencontré les familles Samoa, la signification spirituelle de prendre de la hauteur, de mener une vie meilleure et de s'agripper aux ordonnances salvatrices était très claire. L'exemple, la vie du Sauveur, nous enseigne à éviter spirituellement les chemins bas où les choses de ce monde dominent. Tandis que je serrais les mains des membres après notre réunion, une sœur m'a dit qu'elle n'était pas allée avec sa famille au temple et qu'elle avait perdu une fille. Elle m'a dit en larmes que leur objectif était maintenant de se préparer pour les ordonnances sacrées du temple afin de pouvoir être ensemble éternellement. En réfléchissant à ce qu'avait dit cette sœur et à la situation actuelle du monde, j'ai ressenti l'urgence de recommander à chacun de nous de chercher la situation élevée, le refuge et la protection éternelle du temple. Le dimanche de Pâques, 3 avril 1836, une semaine après la consécration du temple de Kirtland, les 12 ont officié en distribuant la Sainte Cène aux membres. Après la réunion, suite à une prière solennelle et silencieuse, le Sauveur est apparu en majesté au prophète Joseph et à Oliver Cordery. Et par l'intermédiaire de Moïse, d'Élias et d'Élie, il a rétabli d'autres clés de la prêtrise, dont le pouvoir sacré de scellement qui unit les familles pour l'éternité. Aujourd'hui, en ce matin de Pâques, nous nous réjouissons de tout ce que le Sauveur a fait pour nous et nous a donné à chacun la possibilité d'obtenir le salut et l'exaltation. Mais, comme les enfants de Samoa, nous devons courir le plus vite possible vers les hauteurs qu'il a prévues pour y trouver la sécurité et la paix. L'une des manières de le faire est de suivre les enseignements de notre prophète vivant, Thomas Monson. Il suit le Sauveur de manière exemplaire. En ce magnifique matin de Pâques, je repense aux belles paroles écrites par Eliza Snow, servante fidèle du rétablissement. Qu'il soit honoré pour toujours le divin plan de vie qui réunit justice, amour en céleste harmonie. Je rends mon témoignage apostolique que Jésus-Christ vit et qu'il est le sauveur et rédempteur du monde. Il a fourni le chemin qui mène au vrai bonheur. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you.
Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Et les personnes qui nous ont parlé pendant cette session de la conférence. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'écouter notre prophète bien-aimé, Thomas Esmondson. Ensuite, le chœur terminera la session en chantant « Chantons tous, pleins d'allégresse ». Wolfgang H. Paul, des 70, fera la prière de clôture. La dernière session de cette conférence commencera à 14h cet après-midi. Président Monson.
This has been a remarkable session.
Ça a été une session remarquable.
On behalf of all who participated thus far in word or music.
En représentant tous ceux qui ont parlé et fourni la musique, je voudrais, en tant que président de l'Église, vous dire en deux mots les deux mots les plus importants en anglais, dire à la présidence sœur Cheryl Lant et sa présidence et au chœur, et les deux mots sont merci en un mot en français. Il y a de nombreuses années, alors que j'étais à Londres, j'ai visité la célèbre galerie d'art Tate. Les nombreuses salles contenaient des œuvres de Gainsborough, Rembrandt, Constable et d'autres artistes de renom. Et j'ai admiré leur beauté, conscient du talent qu'il avait fallu pour peindre ces chefs-d'œuvre. Mais dans un coin tranquille du troisième niveau, un tableau a non seulement attiré mon attention, mais a aussi ému. L'artiste Frank Bramley avait peint une petite maison face à une mer balayée par le vent. Deux femmes, la mère et la femme d'un pêcheur absent, avaient attendu son retour toute la nuit en observant la mer. La nuit était maintenant terminée. Elle s'était rendue compte qu'il était perdu en mer et qu'il ne reviendrait pas. Agenouillée près de sa belle-mère, la tête sur les genoux de la vieille femme, la jeune épouse pleurait de désespoir. La bougie consumée sur le rebord de la fenêtre témoignait de la vaine nuit de veille. Je ressentais la douleur de la jeune femme. Je ressentais son chagrin. Le titre saisissant que l'artiste avait donné à son tableau racontait l'histoire tragique. C'était une aube sans espoir. Oh, comme cette jeune femme aspirait tant à la consolation et même à la réalité du requiem de Robert Louis Stevenson. Le foyer, c'est le marin revenu de la mer et le chasseur revenu des collines. De tous les faits qui concernent la condition mortelle, aucun n'est plus certain que sa fin. La mort est notre lot commun. Elle est notre héritage universel. Elle peut venir chercher sa victime dans la tendre enfance ou la jeunesse, dans la force de l'âge. Ou bien son appel peut être différé jusqu'à ce que les cheveux soient blanchis par les ans. Elle peut se produire à la suite d'un accident ou d'une maladie, ou à la suite de causes naturelles. Mais elle doit venir. Elle représente inévitablement la perte douloureuse d'une relation, et particulièrement dans la jeunesse, l'effondrement de rêves et d'ambitions non réalisées, d'espoirs évanouis. Quel être humain, devant la perte d'un être cher, ou lui-même sur le seuil de l'infini, ne s'est pas demandé ce qui se trouve au-delà du voile qui sépare le vu de l'invisible. Il y a des siècles, Job, qui après avoir reçu pendant de nombreuses années toutes les bénédictions matérielles, s'est retrouvé douloureusement affligé de tous les maux possibles. Parlait avec ses amis et murmura l'éternelle question. L'homme, une fois mort, peut-il revivre? Job exprimait ainsi la réflexion de tout homme ou femme. En ce magnifique matin de Pâques, je vais aborder la question de Job. L'homme, une fois mort, peut-il revivre? Et je vais apporter la réponse qui provient non seulement d'une profonde réflexion, mais aussi de la parole révélée de Dieu. Je vais commencer par les bases. S'il y a un dessein au monde dans lequel nous vivons, il doit y avoir un concepteur qui peut contempler les nombreuses merveilles de l'univers sans croire qu'il y a un dessein pour tout le genre humain. Qui peut douter qu'il y a un concepteur? Dans le livre de la Genèse, nous apprenons que le grand concepteur a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Que la lumière soit, a dit le grand concepteur, et la lumière fut. Il a créé le firmament. Il a séparé la terre d'avec les eaux et a dit, que la terre produise de la verdure, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence. Il a créé deux luminaires, le soleil et la lune. Les étoiles sont nées conformément à son dessein. Il mit des créatures vivantes dans les eaux et des oiseaux pour voler sur la terre. Et il en fut ainsi. Il fit le bétail, les animaux et tout ce qui rampe. Son dessein était presque achevé. Pour finir, il créa l'homme à son image. Hommes et femmes, leur donnant domination sur tous les êtres vivants. Seul l'homme a reçu l'intelligence, un cerveau, un intellect et une âme. Seul l'homme, avec ses capacités, pouvait avoir de la foi et de l'espérance, de l'inspiration et de l'ambition. Qui pourrait dire de manière convaincante que l'homme, l'œuvre la plus noble du grand concepteur, avec la domination sur toutes les choses vivantes, doté d'un cerveau et d'une volonté, d'un intellect et d'une âme, de l'intelligence et de la divinité, doit prendre fin quand l'esprit quitte son temple terrestre? Pour comprendre la signification de la mort, nous devons connaître le but de la vie. La faible lumière de la croyance doit laisser la place à la clarté du soleil de la révélation par laquelle nous savons que nous avons vécu avant de naître dans la condition mortelle. Dans la préexistence, nous faisions partie des fils et des filles de Dieu qui ont poussé des cris de joie, sachant qu'ils auraient la possibilité de venir dans la difficile mais nécessaire condition mortelle. Nous savions que notre objectif était d'obtenir un corps physique, de surmonter les épreuves et de prouver que nous respecterions les commandements de Dieu. Notre Père savait cela et savait qu'en raison de la nature de la condition mortelle, nous serions tentés, que nous pécherions et nous ne serions pas à la hauteur. Afin que nous puissions avoir toutes les chances de réussir, il a prévu un Sauveur qui souffrirait et mourrait pour nous. Non seulement il expirait pour nos péchés, mais par cette expiation, il vaincrait aussi la mort physique à laquelle nous serions assujettis en raison de la chute d'Adam. Ainsi, il y a plus de 2000 ans, le Christ, notre Sauveur, est né dans la condition mortelle, dans une étable, à Bethléem. Le Messie, depuis longtemps annoncé, était arrivé. Très peu de choses ont été écrites sur l'enfance de Jésus. J'aime le passage suivant de Luc. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et du livre des Actes, il y a cette phrase courte à propos du Sauveur qui a un sens plus large. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Il a appelé les 12 apôtres. Il a béni les malades. Il a fait marcher les paralytiques, a rendu la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds. Il a même ramené les morts à la vie. Il a enseigné, il a témoigné et nous a montré un exemple parfait à suivre. Puis, la mission mortelle du Sauveur du monde est arrivée à sa fin. Il y a eu un dernier repas avec ses apôtres dans une chambre haute. Gethsémané et la croix du calvaire l'attendaient. Nul mortel ne peut comprendre toute l'importance de ce que le Christ a fait pour nous à Gethsémané. Il a lui-même décrit par la suite ce qui s'est passé. Et je cite, « Ses souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi Dieu, le plus grand de tous. Elles m'ont fait trembler à cause de la douleur. Elles m'ont fait saigner à chaque pore. Elles m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. » Fin de citation. Après l'agonie de Gethsémané, sans force, il a été saisi par des mains dures et cruelles et emmené devant Anne, Caïphe, Pilate et Hérode. Il a été accusé et injurié. Des coups brutaux ont encore raffaibli son corps douloureux. Le sang a coulé sur son visage quand on lui a enfoncé sur la tête une couronne cruelle faite d'épines acérées qui lui a déchiré le front. Puis une fois encore, il a été emmené devant Pilate, qui a cédé au cri de la foule en colère. « Crucifie ! Crucifie-le !» Il a été flagellé, avec un fouet dont les lanières de cuir étaient incrustées de morceaux de métal et d'os acérés. Se relevant de la cruauté et de la flagellation, d'un pas vacillant, il a porté sa propre croix, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer, et que quelqu'un d'autre porte son fardeau. Finalement, sur une colline appelée Calvaire, alors que les disciples regardaient impuissants, son corps blessé fut cloué sur une croix. Et il fut injurié et raillé sans merci. Et cependant, il s'écria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les heures d'agonie passèrent et sa vie recula. Ses lèvres desséchées prononcèrent, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Fin de citation. La sérénité et le réconfort d'une mort miséricordieuse le libérèrent des chagrins de la condition mortelle et le retourna en la présence de son Père. Au dernier moment, le Maître aurait pu faire demi-tour, mais ne l'a pas fait. Il est passé en dessous de tout afin de pouvoir tout sauver. Son corps sans vie fut déposé précipitamment, mais avec douceur, dans un tombeau emprunté. Aucune parole de la chrétienté n'a plus de signification pour moi que les mots adressés par l'ange à Marie-Madeleine éplorée et à l'autre Marie, le premier jour de la semaine, quand elles allèrent au sépulcre pour s'occuper du corps de leur Seigneur. L'ange leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Notre Sauveur vivait de nouveau. L'événement de l'histoire humaine, le plus glorieux, le plus réconfortant, le plus rassurant de tous avait eu lieu. La victoire sur la mort. La souffrance et l'agonie de Gethsémané du calvaire avaient été balayées. Le salut de l'humanité avait été assuré. La chute d'Adam avait été contrebalancé. En ce premier matin de Pâques, le tombeau vide était la réponse à la question de Job. L'homme une fois mort peut-il revivre? À tous ceux qui m'écoutent, je dis, l'homme une fois mort revivra. Nous le savons, parce que nous avons la lumière de la vérité révélée. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. J'ai lu, et je crois, le témoignage des personnes qui ont vécu le chagrin de la crucifixion du Christ et la joie de sa résurrection. J'ai lu, et je crois, le témoignage de celles dans le Nouveau Monde qui ont eu la visite du même Seigneur ressuscité. Je crois le témoignage de celui qui, dans cette dispensation, a parlé avec le Père et le Fils dans un bosquet maintenant appelé sacré et qui a donné sa vie, scellant ainsi son témoignage de son sang. Il a déclaré, et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous rendons de lui, qu'il vit, car nous le vîmes, et sur la droite de Dieu, et nous entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père. Fin de citation. L'obscurité de la mort peut toujours être dissipée par la lumière de la vérité révélée. Le Maître a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Au fil des ans, j'ai entendu et lu des témoignages trop nombreux pour être comptés qui m'étaient rendus par des personnes qui attestent la réalité de la résurrection et qui ont reçu, lorsqu'elles en avaient le plus besoin, la paix et le réconfort promis par le Sauveur. Je vais vous raconter une partie de l'un de ces récits. Il y a tout juste 2 semaines, j'ai reçu une lettre touchante d'un père de 7 enfants qui m'a écrit au sujet de sa famille, et en particulier de son fils Jason, qui est tombé malade depuis l'âge de 11 ans. Dans les quelques années qui ont suivi, Jason a eu plusieurs rechutes de sa maladie. Son père a décrit son attitude positive et son naturel enjoué, malgré ses problèmes de santé. Il a reçu la prêtrise d'Aaron à 12 ans et s'est toujours acquitté de bon cœur et avec excellence de ses responsabilités, qu'il se sente bien ou non. À 14 ans, il a reçu sa distinction d'aigle scout. L'été dernier, peu après son 15e anniversaire, il a été de nouveau admis à l'hôpital. Un jour qu'il lui rendait visite, son père l'a trouvé les yeux fermés. Ne sachant pas si Jason était endormi ou réveillé, il a commencé à lui parler doucement et lui a dit, « Jason, je sais que tu as eu beaucoup d'épreuves dans ta courte vie et que ta situation actuelle est difficile. Une bataille immense s'annonce pour toi, mais je ne veux pas qu'un jour tu perdes la foi en Jésus-Christ. » Il a expliqué qu'il a été surpris quand Jason a ouvert immédiatement les yeux et s'est écrié « Jamais !» d'une voix claire et résolue. Il a ensuite refermé les yeux et n'a plus rien dit. Son père a écrit « Par cette sainte déclaration, Jason a exprimé l'un des témoignages de Jésus-Christ les plus puissants et les plus purs que j'ai jamais entendu. Son affirmation « jamais » s'est gravée dans mon âme ce jour-là, et mon cœur s'est rempli de joie de savoir que mon Père Céleste m'avait donné la bénédiction d'être le père d'un garçon si remarquable et si noble. Cela a été la dernière fois que je l'ai entendu témoigner du Christ. » Fin de citation. Sa famille pensait que ce ne serait qu'une nouvelle hospitalisation de routine, mais Jason est décédé, moins de 2 semaines plus tard. Un frère et une sœur aînée étaient en mission à ce moment-là. Un autre frère, Kyle, venait de recevoir son appel en mission. En fait, l'appel est arrivé plus tôt que prévu. Et le 5 août, tout juste une semaine avant le décès de Jason, la famille s'est réunie dans la chambre d'hôpital pour que Kyle y ouvre sa lettre d'appel et que toute la famille soit présente pour ce moment. Dans la lettre qu'il m'a envoyée, le père a mis une photo de Jason dans son lit d'hôpital en compagnie de son grand frère Kyle à côté du lit, sa lettre d'appel en mission à la main. La légende suivante est écrite au-dessus de la photo. Je cite, « Appelés en mission ensemble, des deux côtés du voile. » Fin de citation. Le frère et la sœur de Jason, qui étaient déjà en mission, ont envoyé à leur famille des magnifiques lettres réconfortantes à lire lors de ses obsèques. Sa sœur, qui était dans la mission de Buenos Aires, ouest en Argentine, a écrit dans sa lettre, « Je sais que Jésus-Christ vit, et parce qu'il vit, nous revivrons tous également, notre bien-frère, notre bien-aimé Jason y compris. Nous pouvons puiser du réconfort dans la connaissance sûre que nous avons été scellés pour former une famille éternelle. Si nous faisons de notre mieux pour obéir et nous améliorer dans cette vie, nous le reverrons. » Elle poursuit. Mais je cite, « Il y a une écriture que j'aime depuis longtemps et qui prend maintenant une nouvelle signification et une nouvelle importance. Elle se trouve dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fin de citation. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans notre heure de plus grand chagrin, nous pouvons recevoir la paix profonde qu'apportent les paroles de l'ange en ce premier matin de Pâques. Il n'est point ici, car il est ressuscité. Il est ressuscité. Chantons tous pleins d'allégresse, car il est ressuscité de la mort qui nous oppresse. Jésus nous a libérés. Dans son amour infini, Christ nous a donné la vie. En ce glorieux dimanche de Pâques, moi qui suis l'un de ses témoins spéciaux sur terre d'eau aujourd'hui, je déclare que c'est vrai. En son nom sacré, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Our beloved and kind Heavenly Father,
notre Père céleste bien-aimé, à la fin de cette session extraordinaire de la conférence générale, nous t'exprimons notre amour avec beaucoup d'appréciation pour les instructions reçues, les conseils donnés, les témoignages rendus, et par-dessus tout pour l'esprit, ton esprit que nous avons ressenti. Nous sommes si reconnaissants pour ton Fils bien-aimé, pour son sacrifice expiatoire. Nous sommes reconnaissants qu'il soit ressuscité afin que nous puissions vivre. Nous sommes reconnaissants pour l'évangile de Jésus-Christ et pour le grand plan du bonheur que tu as révélé en ces derniers jours au prophète Joseph Smith. Nous te remercions, Père, pour un prophète, notre prophète vivant, le président Monson, et nous te demandons ta bénédiction sur lui, sur sa famille, sur ses nobles conseillers et sur ceux que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs. En quittant cet endroit, nous te demandons que ta bénédiction repose sur nous alors que nous nous efforcerons de faire ta volonté et de suivre l'exemple de ton Fils, afin que nous nous souvenions toujours de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Vous venez d'assister à une session de la 180e conférence Genève d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.